l'assemblée, dont, après 40 ans, votre tête est troublée, colosse qui sans peur marche d'un pas puissant. Je ne sais plus le reste, mais il est tard, si nous partions. » Et il continua, dans la rue, à exposer ses théories. Frédéric, sans l'écouter, observait à la devanture des marchands les étoffes et les meubles convenables pour son installation. Et ce fut peut-être la pensée de Madame Arnoux qui le fit s'arrêter à l'étalage d'un brocanteur devant 3 assiettes de faïence. Elles étaient décorées d'arabesques jaunes à reflets métalliques et valaient 100 écus la pièce. Il les fit mettre de côté. « Moi, à ta place, » dit Des Lauriers, « je m'achèterais plutôt de l'argenterie. » Décelant par cet amour du cossu l'homme de mince origine. Dès qu'il fut seul, Frédéric se rendit chez le célèbre pomadaire, où il se commanda 3 pantalons, 2 habits, 1 pelisse de fourrure et 5 gilets, puis chez un bottier, chez un chemisier et chez un chapelier, ordonnant partout qu'on se hâtât le plus possible. 3 jours après, le soir, à son retour du Havre, il trouva chez lui sa garde-robe complète, et impatient de s'en servir, il résolut de faire à l'instant même une visite aux Dambreuses. Mais il était trop tôt, 8 heures à peine. Si j'allais chez les autres, se dit-il. Arnoux, seul devant sa glace, était en train de se raser. Il lui proposa de le conduire dans un endroit où il s'amuserait, et au nom de Dambreuse. « Ah, ça se trouve bien. Vous verrez là de ses amis. Venez donc, ce sera drôle. » Frédéric s'excusait. Madame Arnoux reconnut sa voix et lui souhaita le bonjour à travers la cloison, car sa fille était indisposée, elle-même souffrante. Et l'on entendait le bruit d'une cuillère contre un verre, et tout ce frémissement de choses délicatement remuées qui se fait dans la chambre d'un malade. Puis Arnoux disparut pour dire adieu à sa femme. Il entassait les raisons. « Tu sais bien que c'est sérieux. Il faut que j'y aille. J'ai besoin, on m'attend. Va, va, mon ami, amuse-toi. » Arnoux est là un fiacre. « Palais Royal, Galerie Montpensier, 7. » Et se laissant tomber sur les coussins. « Ah, comme je suis là, mon cher. J'en crèverai. Du reste, je peux bien vous le dire, à vous. » Il se pencha vers son oreille, mystérieusement. « Je cherche à retrouver le rouge du cuivre des Chinois. » Et il expliqua ce qu'était la couverture et le petit feu. Arrivé chez Chevet, on lui remit une grande corbeille qu'il fit porter sur le fiacre. Puis, il choisit pour sa pauvre femme du raisin, des ananas, différentes curiosités de bouche et recommanda qu'elles fussent envoyées de bonne heure le lendemain. Ils allèrent ensuite chez un costumier. C'était d'un bal qu'il s'agissait. Arnoux prit une culotte de velours bleu, une veste pareille, une perruque rouge, Frédéric un domino, et ils descendirent, rue de Laval, devant une maison illuminée au second étage par des lanternes de couleur. Dès le bas de l'escalier, on entendait le bruit des violons. « Où diable me menez-vous ? » dit Frédéric. « Je suis une bonne fille, n'ayez pas peur. » Un groom leur ouvrit la porte, et ils entrèrent dans l'antichambre où des paletots, des manteaux et des châles étaient jetés en piles sur des chaises. Une jeune femme, en costume de dragon Louis XV, la traversait en ce moment-là. C'était Mademoiselle Rose Annette Bron, la maîtresse du lieu. « Eh bien ? » dit Arnoux. « C'est fait. » répondit-elle. « Ah, merci, mon ange !» Il voulut l'embrasser. « Prends donc garde, imbécile, tu vas gâter mon maquillage. » Arnoux présenta Frédéric. « Tapez là-dedans, monsieur, soyez le bienvenu. » Elle écarta une portière derrière elle et se mit à crier emphatiquement. « Le sieur Arnoux, Marmiton, est un prince de ses amis !» Frédéric fut d'abord ébloui par les lumières. Il n'aperçut que de la soie, du velours, des épaules nues, une masse de couleurs qui se balançait au son d'un orchestre caché par des verdures, entre des murailles tendues de soie jaune, avec des portraits au pastel çà et là, et des torchères de cristal en style Louis XVI, de hautes lampes, dont les globes dépolis ressemblaient à des boules de neige, dominaient des corbeilles de fleurs, posées sur des consoles dans les coins. Et en face, après une seconde pièce plus petite, on distinguait, dans une troisième, un lit à colonne torse, ayant une glace de Venise à son chevet. Les dents s'arrêtèrent, et il y eut des applaudissements, un vacarme de joie, à la vue d'Arnoux s'avançant avec son panier sur la tête. Les victuailles faisaient bosse au milieu. « Gare au lustre !» Frédéric leva les yeux. C'était le lustre en vieux saxe qui ornait la boutique de l'art industriel. Le souvenir des anciens jours passa dans sa mémoire, mais un fantassin de la ligne en petite tenue, avec cet air nigaud que la tradition donne aux conscrits, se planta devant lui, en écartant les deux bras pour marquer l'étonnement, et il reconnut, malgré les effroyables moustaches noires extra pointues qui le défiguraient, son ancien ami Hussonnet. Dans un charabia moitié alsacien, moitié nègre, le bohème l'accablait de félicitations, l'appelant son colonel. Frédéric, décontenancé par toutes ces personnes, ne savait que répondre. Un archer ayant frappé sur un pupitre, danseurs et danseuses se mirent en place. Ils étaient une soixantaine environ, les femmes pour la plupart en villageoises ou en marquises, et les hommes, presque tous d'âge mûr, en costume de routier, de débardeur ou de matelot. Frédéric, s'étant rangé contre le mur, regarda le quadrille devant lui. Un vieux beau, vêtu comme un doge vénitien, d'une longue simarre de soie pourpre, dansait avec Madame Rosanette, qui portait un habit vert, une culotte de tricot et des bottes molles à éperons d'or. Le couple en face se composait d'un arnaute chargé de yatagans et d'une Suissesse aux yeux bleus, blanche comme du lait, potelée comme une caille, en manches de chemise et corset rouge. Pour faire valoir sa chevelure qui lui descendait jusqu'aux jarrets, une grande blonde, marcheuse à l'opéra, s'était mise en femme sauvage, et par-dessus son maillot de couleur brune n'avait qu'un pagne de cuir, des bracelets de verroterie et un diadème de clinquant d'où s'élevait une haute gerbe en plume de paon. Devant elle, un Pritchard, affublé d'un habit noir grotesquement large, battait la mesure avec son coude sur sa tabatière. Un petit berger bateau, azur et argent comme un clair de lune, choquait sa houlette contre le tirse d'une bacchante, couronnée de raisins, une peau de léopard sur le flanc gauche et des cothurnes à ruban d'or. De l'autre côté, une Polonaise, en Spencer de velours nacara, balançait son jupon de gaze sur ses bas de soie gris perle, pris dans des bottines roses cerclées de fourrure blanche. Elle souriait à un quadragénaire ventru, déguisé en enfant de cœur, et qui gambadait très haut, levant d'une main son surplis et retenant de l'autre sa calotte rouge. Mais la reine, l'étoile, c'était Mademoiselle Loulou, célèbre danseuse des bals publics. Comme elle se trouvait riche maintenant, elle portait une large collerette de dentelle sur sa veste de velours noir uni, et son large pantalon de soie ponceau, collant sur la croupe et serré à la taille par une écharpe de cachemire, avait, tout le long de la couture, des petits camélias blancs naturels. Sa mine pâle, un peu bouffie et un nez retroussé, semblait plus insolente encore par l'ébouriffure de sa perruque où tenait un chapeau d'homme en feutre gris, plié d'un coup de poing sur l'oreille droite. Et dans les bonds qu'elle faisait, ses escarpins à boucles de diamants